Bon, il manque des tables. C'est pas grave, on va faire comme ça. Bon, il est vivant, il est ressuscité. Qui ? Qui ? Amen. Amen. C'est un dimanche de joie aujourd'hui. Ce n'est pas un dimanche de tristesse. C'est un dimanche qui doit être habité par la joie dans le cœur de chacun de nous, parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il vit dans le cœur de chacun. Et c'est une promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Je vous ai promis, parce que le Seigneur m'a mis à cœur, des choses nouvelles. Nous allons vivre des choses nouvelles aujourd'hui. Attendez-vous à être bousculé. Attendez-vous à être bousculé. Le but d'un culte, le but d'un enseignement, ici on n'est pas dans un enseignement, on est dans un culte, il y a la louange, il y a la prédication. Il faut qu'il y ait des choses qui bougent, qui changent votre vie, qui vous bousculent. Il faut qu'en sortant d'ici, il y ait des choses nouvelles dans votre cœur. Il faut que vous puissiez mettre les choses en pratique. Si vous retenez un mot, si vous retenez une phrase, c'est le mot, la phrase que le Seigneur veut pour vous aujourd'hui et qu'il veut vous donner, parce que sa parole, elle est vivante. Amen. Amen. Je vous donne, dans un premier temps, quelques feuilles. Voilà, préparez vos stylos. DJ, c'est bien, il a déjà préparé son stylo. Faites passer, il y a quelques feuilles. Je vous promets pas une interrogation écrite, non. Non, 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 mais vous allez voir. S'il y a trop de feuilles, vous les rendez à Michel. Voilà, si vous n'avez pas de stylo, allez voir Michel, elle a quelques crayons en dépannage. Préparez vos crayons. Voilà. Vous avez vu ce matin, nous n'animons pas la Sainte Cène directement après la louange. C'est voulu. Des choses nouvelles ce matin. Des choses nouvelles. Alors voilà, je vais vous apporter le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la Sainte Cène. Nous allons vivre un moment fort ensemble. Voilà, dans la joie, parce que Pâques c'est la joie, je le répète. Et ensuite, nous allons finir dans la joie. Il y aura une surprise à la fin. Et nous allons finir dans la joie. Amen. Amen. Ça va? Tout va bien? Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Le Seigneur a tout prévu. Et comme il prépare les cœurs d'avance, en général, tout va bien. Tout le monde est prêt? On y va. Dans la parole de Dieu, dans Proverbes 22, au verset 19, la parole nous dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. » Le Seigneur, comme je disais il y a un instant, veut parler au cœur de chacun ce matin. Attendez-vous. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle. J'aurais pu vous parler ce dimanche et vous faire un culte spécial sur Pâques, mais je pense que dans la louange, qui était très riche. Voilà, ce message a été apporté aussi. J'aurais pu vous parler de la passion, j'aurais pu vous parler de la crucifixion, de la résurrection des Christ, qui est sans doute la raison d'être centrale du christianisme aujourd'hui. Nous croyons tous que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Nous croyons que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité le troisième jour. Nous croyons que nous sommes au bénéfice de son sang. Nous croyons que nous sommes au bénéfice de la puissance de sa résurrection. Et cela, mes amis, mes frères, mes sœurs, ça s'appelle la foi. C'est la foi qui nous est donnée. La foi est un don de Dieu. La foi et la confiance peuvent paraître similaires pour certains, mais il y a quand même une nuance. La foi est spécifique à la religion, est spécifique à Dieu. Enfin, nous, enfants de Dieu, elle est spécifique à Dieu et pas à la religion. Mais la confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. On donne notre confiance, on donne notre approbation, parce qu'on a l'assurance de la possibilité des choses. Le Saint-Esprit m'a convaincu de vous apporter ce message sur la confiance. Dans le psaume 40 au verset 5, la parole nous dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Pour ceux qui ont fait Alpha, pour ceux qui me connaissent depuis 2 ans et au-delà, ils connaissent mon témoignage. Mais je voudrais quand même apporter ce petit témoignage. Il y a 4 mères en Israël. Est-ce que vous les connaissez, ces 4 mères? La mère morte, oui. Alors, la mer morte, la mer Méditerranée, 2. Le lac de Galilée, qui est la mer de Galilée. Ok. Et ensuite, il y a la mer Rouge. Ce lac de Galilée, cette mer de Galilée plutôt, est aussi appelé Génézaré, ou le lac de Tibériade. Bon, je peux vous dire qu'il fait 160 km carrés, mais ça ne va pas vous changer votre vie. Je peux aussi vous dire qu'il est 200 mètres en dessous du niveau de la mer, mais ça ne va pas vous changer votre vie non plus. Mais je peux vous dire que il est encore une source économique pour toute la région de Galilée. Et certains apôtres y étaient pêcheurs. Et c'est là où le Seigneur est allé les chercher, au bord du lac. On y pêche notamment un poisson très connu. Oui, vous avez déjà mangé le Saint-Pierre? Et pourquoi t'aimes pas? Ben moi je vais dire pourquoi j'aime pas. Parce qu'il est rempli d'arêtes. Il est rempli d'arêtes et moi je préfère manger autre chose que du Saint-Pierre. Alors pourquoi l'ont-ils appelé le Saint-Pierre? Je pense que les commerçants du coin ont voulu vendre leur poisson et puis comme Saint-Pierre, Pierre. Oui, peut-être, il y a peut-être un... Mais une fois qu'il est cuit... Quoi? Peut-être. Je ne peux pas te répondre là-dessus, je n'en sais rien. Sa situation géographique fait qu'il est balayé par de brusques tempêtes et selon les saisons. Il sera encore le théâtre du surnaturel de Dieu. Il se passe des choses sur ce lac de Tibériade quand nous allons au ciel. Et c'est sur ce bateau même que le Seigneur m'a fait la grâce de me rencontrer. Je croyais en Dieu, oui, je croyais en Dieu. Oui, j'avais ma foi, ma propre foi. Mais j'étais plein de doutes. Il me manquait quelque chose. Et vous savez ce qui me manquait? Il me manquait la confiance. Parce que la confiance conduit à l'espérance. J'avais pris avec moi mes bagages, oui. J'avais rangé dans ma belle et grande malle mon incrédulité, ma peur. J'avais mis mes injustices, mon rejet. J'avais mis une multitude de raisonnements. Et j'étais bien amarré au port. Mon bateau était bien amarré au port. Et je ne pouvais plus sortir de ce port. Et à votre avis, est-ce que le bateau doit être amarré dans un port et ne plus bouger? Non. Le bateau est censé naviguer et être en liberté et découvrir le monde. Et moi, j'étais captif. J'étais emprisonné dans ce port. Alors j'ai vécu parallèlement l'expérience de Pierre. Dans Pierre, c'était dans Matthieu 14, verset 31. Je voulais moi aussi m'avancer vers Jésus. Et le vent était fort. Et comme Pierre, je m'enfonçais dans l'eau. Mais je voulais aller vers Jésus. J'ai crié moi aussi, « Help ! Au secours, Seigneur ! Au secours ! Sauve-moi !» Et bien sûr, cette parole qui m'a été donnée à ce moment, « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Cette parole est arrivée dans mon esprit parce que Dieu parle à l'esprit et a glissé vers mon cœur. Et Jésus m'a pris la main. Il m'a sorti de l'eau où j'allais me noyer, comme il l'a fait lui-même avec Pierre. Là, j'ai proclamé Jésus tu es véritablement le Fils de Dieu. Sois, s'il te plaît, sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai quitté le pourquoi, j'ai quitté le pourquoi pour entrer dans le comment. Et afin de toujours garder le cap, j'ai confié la barre à Jésus. J'ai depuis essuyé quelques tempêtes qui n'ont pas été faciles dans ma vie. Et je sais que demain, il y aura encore des tangages. Je sais qu'il y aura encore de la houle. Mais je sais que son Saint-Esprit souffle dans mes voiles. Et je sais que je n'échouerai jamais. Je n'irai jamais sur un banc de sable où je pourrai m'y rendre prisonnier. Amen. Nous avons tous besoin. Nous avons tous besoin de vivre dans la confiance. Nous avons tous besoin de vivre dans la sérénité. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Mais qu'il est difficile aujourd'hui, d'avoir et de faire confiance. Qu'il est difficile. Mais nous pouvons en juger seulement quand nous avons expérimenté les circonstances. Notre sécurité, notre assurance, notre hardiesse sont souvent ballottées par les flots de nos vies. Aujourd'hui, sur qui nous pouvons compter? Sur qui nous pouvons avoir confiance? Le monde est difficile aujourd'hui. Nous avons aussi le mal de mer, le mal de vivre, et c'est ce mal du siècle. Regardons ensemble l'aventure qu'ont connue les apôtres sur ce même lac. Michel, je t'appelle, s'il te plaît, si tu veux bien venir lire le verset, ce serait gentil. Merci. Nous allons prendre Marc, chapitre 4, au verset 35. Et nous la lirons dans la Bible du Semeur. Merci.
4, verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples : Passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent : Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ? Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac : Silence, tais-toi ! Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples : Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres : Qui est donc cet homme pour que le même vent et le lac lui obéissent ?
Merci Michel. Dans le verset 40, la parole nous dit : Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? Point d'interrogation. Au verset 41, mais eux furent saisis d'une grande crainte. Est-ce que nous pouvons imaginer la scène quelques instants? Est-ce que nous pouvons nous imaginer devant ce lac de Tibéria, devant cette mer de Galilée? Nous imaginons ces rafales de vent, les vagues, le bateau qui prend l'eau, on commence à écoper. Voyez. On chavire, la mort, la noyade, cette eau qui entre dans nos poumons et qui nous empêche de respirer. Vous imaginez quelle situation. Et puis Jésus qui est à l'arrière du bateau qui dort. Et vous êtes dans la panique. Et nous sommes dans la panique. Mais Jésus, lui, dort en toute confiance. Mais que remarquons-nous? Le contraste. Le contraste entre le calme de Jésus qui dort paisiblement et l'inquiétude, voire la panique des disciples qui le réveillent en criant. Imaginez non plus regarder cette mer ni ce bateau. Imaginez maintenant être sur ce bateau. Qu'aurions-nous fait? Moi, je vous avoue, j'aurais eu peur. Moi, j'aurais eu peur. Je suis certain aussi que j'aurais été réveillé Jésus à l'arrière de la barque. Mais pourtant, Jésus était là. Et les gens ont eu peur. Mais pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils n'avaient pas eu la révélation de qui était vraiment Jésus. Et que font les disciples? Les disciples le réveillent et lui crient: « Maître, nous sommes perdus !» Et toi, tu ne t'en soucies pas. On aurait pu même ajouter « nous » et tu ne t'en soucies même pas. Nous sentons le reproche de l'homme. Mais Jésus a-t-il dit: nous allons essayer de passer sur l'autre bord? Est-ce que c'est ce que vous avez entendu dans la parole que Michel vous a lue? Non, Jésus a dit: passons de l'autre côté. Pour ceux qui ont encore des notions de français, moi j'y retourne de temps en temps, nous avons de la conjugaison dans la langue française, nous avons le passé, nous avons le conditionnel et nous avons l'impératif. Jésus là utilise l'impératif. Passons de l'autre côté. Nous ne sommes pas dans un temps conditionnel et cela enlève tous les doutes. Passons de l'autre côté. Parce qu'il est certain d'y arriver. Ah, vous allez me dire, ah oui, mais attends, parce que là, c'est bien gentil, mais c'est Jésus. C'est pas nous. C'est vrai. Jésus apporte ce grand calme dans les émotions. Dans les émotions des hommes en parlant sévèrement au vent. Et c'est cette autorité-là qui nous est donnée. C'est cette autorité-là que Dieu nous donne et que nous devons accueillir avec toute la confiance. Mais voilà notre difficulté à nous. C'est que bien souvent, nous avons une oreille qui écoute Dieu, pendant que l'autre écoute le monde, écoute nos raisonnements. Et vous avez le malin qui arrose ses raisonnements. Ces raisonnements, ils nous conduisent vers les fausses croyances du monde. Et c'est la dualité de chacun en nous. C'est notre dualité entre l'homme charnel et l'homme spirituel que nous sommes. Vous voyez, la confiance est un état d'esprit. Et elle dépend de notre foi, de notre cœur, de notre volonté et bien sûr de notre engagement. C'est une décision que nous prenons personnellement. Personne ne pourra la prendre à votre place. Elle vous appartient, elle nous appartient. Nous faisons souvent confiance, oui, avec une certaine réserve, pas encore tout à fait. Oui, c'est une réalité. Alors quelle est notre nature? Nous sommes tous différents. Christine, tu es différente d'Annette, Annette est différente d'Angélique, qui est différente de Sabine. Nous sommes tous différents. Alors sommes-nous plutôt d'une nature confiante? Peut-être crédule. Peut-être naïve. Peut-on nous le reprocher? Est-ce qu'on nous le reproche? Ah oui, mais toi, tu fais confiance à tout le monde. Mais je te ferai remarquer que tu n'arrêtes pas de te faire arnaquer. On n'arrête pas de te tromper. Ou alors vous êtes plutôt d'une nature méfiante, défiante, sceptique, peut-être d'une nature soupçonneuse. En quoi, en qui plaçons-nous notre confiance aujourd'hui? Et qu'est-ce qui motive notre propre fonctionnement? Notre confiance est-elle bien placée? Alléluia! Alléluia! Nous avons besoin de cette confiance. Mais est-elle mal placée, notre confiance? Alors là, c'est un danger que nous courons. Avons-nous encore confiance? en qui avons-nous confiance? Mais pourquoi? Vous allez me dire, oui, bien sûr, ça dépend des circonstances. Ça dépend de notre vécu. Parce que nous avons tantôt vécu des bonnes expériences. Et nous avons tantôt connu de mauvaises expériences. Ma grand-mère disait, au pays des promesses, on y meurt de soif. Si tu veux, ça revient au même. Choisis selon ton cœur. Pour moi, la résultante est la même. Alors, souvent au pays des promesses, on y meurt de faim ou on y meurt de soif. Et en fait, on n'est pas bien au pays des promesses. Mais alors, est-ce que nous inspirons, nous, confiance? Est-ce que nous inspirons confiance? Ma grand-mère disait toujours, celui-là, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il y a un autre proverbe qui dit, l'habit ne fait pas le moine. Peut-on avoir confiance aux autres si on n'a pas confiance en nous-mêmes? Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile. Moins nous avons confiance en nous, mais moins nous aurons confiance aux autres. Et alors pourquoi ce manque de confiance? Pourquoi ce manque de confiance? Mais c'est l'œuvre du malin. Et vous connaissez son but. Chacun de nous connaît la destination parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous irons un jour rejoindre Jésus. Nous savons que nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Mais ce que Satan veut nous voler, c'est notre destinée. C'est notre destinée. Sa stratégie, c'est de frapper l'homme afin qu'il se dévalorise. Et qu'il dévalorise. C'est de semer le trouble parmi les hommes, les égarer. Et son plus grand combat, c'est qu'on puisse remettre en question le tout accompli à la croix. Ça, c'est sa volonté. Il est déterminé, et son grand combat, c'est que nous perdions notre foi, notre confiance en Dieu, notre Père, mais aussi à l'humanité. Il veut que nous perdions confiance dans les hommes. Et ça, il est en train d'y arriver. Et nous avons un combat à mener. Et nous voulons croire, nous, chrétiens, qu'il y a encore des bonnes choses dans ce monde. Et nous sommes acteurs des bonnes choses qui doivent arriver dans ce monde. Oui, il y a encore des bonnes choses dans ce monde. Et nous devons faire confiance en l'humanité. Alors que se passe-t-il? Nous sommes sur la défensive. Nous construisons des murs autour de nous, des forteresses. Allez, non. J'ai plus confiance. Ces murs nous enferment. Parce que nous avons été blessés. Nous avons été trahis. Nous avons été abusés. Voilà toute la difficulté aujourd'hui de faire confiance ou de refaire confiance. Vous voyez, quand on dit des choses et qu'on ne les tient pas, c'est difficile ensuite de faire confiance. Entre le dire et le faire, il y a une grande différence. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quelles que soient les paroles et les actes qui ont été posés sur votre vie, qui vous conduit, c'est un mot magique, je vous le redemanderai la semaine prochaine. Et cela vous conduit à la pistanthrophobie. Pistanthrophobie. Franck, la dernière fois, disait un mot comme ça, la semaine dernière. Alors voilà, je voulais vous... Si pour certains qui sont endormis, je voulais vous réveiller, voilà, c'est fait. Pistanthrophobie. Notre DJ, mardi, à la cellule de maison. Nous allons en parler. Je vous donne la définition. Pistanthrophobie, pistanthrophobie. C'est la peur de faire confiance à soi-même et aux autres. Ces paroles, je vous dis bien, frères et sœurs, ces paroles qui ont été posées sur vous ne sont que des mensonges. Ne sont que des mensonges. Amen. Ils ne sont que des mensonges. Parce que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Tout ce qu'on a pu poser sur ta vie ne sont que des mensonges. Et quand tu te réveilles le matin, quand tu ouvres les yeux, remercie le Seigneur et proclame : je suis une créature merveilleuse. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen. Amen. Ésaïe 2, verset 22, la parole nous dit : cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a aucun souffle. De quelle valeur est-il ? Vous voyez, mes frères et sœurs, aucun homme n'est parfait. Seul Dieu est parfait. L'opinion négative que certaines personnes peuvent avoir de toi, c'est le problème de ceux qui les disent. Et ne laisse jamais dire quelqu'un que tu es incapable. Parce que tu es capable. Parce que Dieu te rend capable. Et il donne toujours ce qu'il redonne. Il n'appelle pas les gens qualifiés. Il qualifie toujours les gens qu'il appelle. Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais vraiment que vous rendiez compte que personne ne peut anéantir les projets qui commencent dans les mains de Dieu pour chacun d'entre vous. Personne ne peut anéantir ces projets. Si quelqu'un vous dit le contraire, ce sont des mensonges. Acte 5, verset 29, la parole de lui, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alors, quelle est la volonté de Dieu ? Il veut rétablir son ordre dans chacun de ses enfants. Il veut réparer nos filets. Il veut nous donner sa confiance et rétablir la nôtre. Il veut restaurer nos émotions, notre volonté. Il veut nous libérer de nos inquiétudes. Et il veut aussi nous donner le discernement et nous conduire vers des hommes et femmes de confiance. Parce qu'il y a des hommes et des femmes de confiance que le Seigneur nous donne. Parce qu'il a préparé leur cœur d'avance afin de nous faire du bien. Amen. Amen. Marc 9 au verset 23, la parole nous dit « Tout est possible à celui qui croit. » Et on veut croire, on veut proclamer que Dieu n'a pas de limite pour aimer, sauver, aider, consoler, restaurer, fortifier. Et ceux qui doutent, qui n'ont pas confiance en vous, ils vont toujours sortir la liste avec vos impossibilités. Et pas la liste de vos possibilités. Mais Dieu connaît chacun d'entre vous. Et avec Dieu, tout est possible. Et si tu essaies d'éviter par un manque de confiance les différentes difficultés, tu prends le risque de bloquer ta destinée. Tu vas descendre à la cale du bateau et rater les escales. Nous devons rêver à des choses impossibles sans l'intervention divine. Je le répète, nous devons rêver à des choses impossibles sans l'intervention divine. Dieu nous promet-il une traversée facile ? Il nous assure d'arriver à bon port. Dans le psaume 50, verset 15, la parole nous dit « Invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. » La Bible est un livre sûr et sur lequel nous pouvons avoir entièrement confiance pour nous dire la vérité sur Dieu et la vérité sur nous-mêmes. Elle peut être un miroir. Alors beaucoup de chrétiens se plaignent de ne pas entendre Dieu et que Dieu reste silencieux. Et tu vois, mon frère, ma sœur, si ta Bible reste fermée, comment veux-tu entendre Dieu ? Si tu veux avoir un appel téléphonique sur ton portable et que ton portable reste fermé, comment veux-tu avoir des appels téléphoniques ? C'est incohérent. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Alors peut-on faire confiance en Dieu ? Lui qui nous a aimés le premier et qui renouvelle ses bontés chaque matin. Peut-on faire confiance en Dieu, lui qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ? La Bible contient une multitude de pépites attestant que Jésus est celui en qui nous devons donner toute notre confiance. Il est la confiance parfaite, il est la confiance absolue. Pourquoi ? Parce qu'il est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Il est la parole de Dieu qui est venu en chair vivre avec les hommes. Il est la lumière du monde. Et nous avons reçu la plénitude des grâces par grâce. Grâce pour grâce. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que le Père lui donne viendra à lui. Dieu, Jésus, ne rejette personne. Il accueille tout le monde. Il est notre avocat auprès du Père. Il est notre bon berger. Ça fait écho, et la Bible nous le confirme dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il dirige. Il me dirige dans les eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel a oint Jésus, Ésaïe 61. Parce qu'il a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Jésus est la résurrection et la vie. Et il a mis le comble à son amour. Tout ce qu'il a accompli, ça a été dans la confiance de son Père. Et il est devenu la Pâque, cette fête qui est le symbole de cette journée. Et lui, Jésus, connaissait l'importance de son acte héroïque. Et ce que l'impact de la puissance de sa résurrection aller bousculer le monde. Alors je vous pose une question, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Est-ce que Jésus est digne de confiance ? J'attends une réponse. J'attends une réponse. Oui. Amen. Je vous entends pas. Amen. 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 Incontestablement. Malgré, je veux bien le répéter pour toi, Jacques. Non, mais il l'a très bien compris. Il fait ça pour me taquiner. Il l'a très bien compris. Incontestablement, Jésus est digne de confiance. Malgré la fragilité des apôtres, ils ont gardé confiance. Ils ont gardé confiance au Maître. Ils ont gardé sa confiance. Et ceux qui ont quitté Jésus, c'était de leur propre choix. Nous avons tous la liberté de nos choix et nous sommes responsables de nos choix. Jésus a aussi gardé et renouvelé toute sa confiance à ses amis. Même Pierre qui l'a renié 3 fois, Jésus lui a accordé sa confiance. Et Jésus veut nous faire confiance. Même si nous nous sommes trompés, même quand nous nous trompons, parce que le Père est miséricordieux et Dieu veut renouveler sa confiance. Et c'est cette nouvelle alliance que Dieu a posée dans sa relation avec les hommes Et Jésus en est le centre, parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, la foi, la confiance, nous sommes sans cesse bousculés, ballottés. Nous avons des doutes, mais je pense que nous devons douter de nos doutes. Plus nous serons fidèles dans les petites choses, plus le Seigneur nous en confiera de plus grandes. Matthieu 6, verset 25, la parole nous dit: ne vous inquiétez pas pour votre vie. Non. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que votre vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Frères et sœurs, ne valez pas beaucoup mieux qu'eux? Est-ce que vous voulez? Vous valez pas mieux que les oiseaux du ciel? Nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Qui peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soif de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, la Bible nous confirme dans Luc 12 au verset 7 que même nos cheveux sont comptés. Jacques, même tes cheveux sont comptés, tu t'en rends compte? Ah! Alors comment devons-nous accueillir et placer notre confiance? Bien sûr, comme des petits-enfants. Comme il est écrit dans Matthieu 18, 2, quand Jésus appelle ses petits-enfants et qu'il place au milieu d'eux, il dit: je vous l'assure, si vous ne changez pas d'aptitude et que vous ne soyez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Être enfant, c'est dépendre dans l'entièreté de notre Père. Nous devons dépendre de Dieu, notre Père céleste, et lui donner l'exclusivité de notre cœur. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par Dieu. Alors nous devons expérimenter notre confiance en Dieu comme des petits-enfants. Notre confiance en Dieu doit être au-dessus de toutes les crises que nous traversons, même dans les événements du monde. Même si les choses semblent s'effondrer dans nos vies, Dieu veut toujours changer nos situations. Et nous devons bénir Dieu, non pas pour les circonstances, mais dans les circonstances que nous vivons. Je le répète, bénissons Dieu, non pas pour les circonstances, mais dans les circonstances que nous vivons. C'est dans la faiblesse qui nous rend fort. La confiance en Jésus ouvre des possibilités au-delà de nos impossibilités. Notre vulnérabilité ouvre des chemins de possibilités et de bénédictions. Nous devons garder notre focus, notre regard sur Jésus et non pas sur les hommes. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Mais que pourraient me faire les autres hommes? Et quand Jésus n'est plus dans votre bateau, quand il ne tient plus la barre de votre bateau, il faut savoir qu'il y en a un qui met une barque à l'eau et qui va vous rejoindre sur votre bateau. Il va venir vous tenter. Il va venir vous gratter. Et son seul but, c'est que vous perdiez le cap. C'est que vous perdiez non pas votre destination, mais votre destinée. Dieu est au contrôle de ma vie. Je veux lui faire confiance. Il dirige toutes les circonstances de notre vie pour faire concourir toutes choses à notre bien. Je termine par ce dernier verset, dans Psaume 37, verset 5. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Amen. Je vous ai promis des choses nouvelles. Dieu vous a promis des choses nouvelles. Les paroles s'envolent. Frères et sœurs, les écrits restent. Nous avons pour certains encore des combats. Nous devons faire confiance dans certaines situations. Nous devons faire confiance à Dieu dans certaines situations. Nous devons libérer notre confiance. Et cette confiance qu'il va nous donner nous libérera les situations conflictuelles dans nos vies. Je vous propose par le papier que je vous ai donné, un moment court, de noter, de mettre la date d'aujourd'hui, et dire voilà Seigneur, je te présente ces situations dans ma vie. Voilà dans les domaines de mes combats. Voilà aujourd'hui je suis attaché au port, tu vois, avec des grands filins, et mon bateau n'arrive pas à sortir du port. Je suis prisonnier dans mes raisonnements, je suis attaché au port, je ne peux plus bouger Seigneur. Et aujourd'hui, dans ces situations, je veux les situations que je vais noter sur ce papier, que je mettrai dans ma Bible, que je reviendrai à chaque fois que j'aurai un doute, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir écrit sur ce papier, je vais avoir pris position dans ces situations. Je prends position, Seigneur, je te fais confiance. Je vous propose de noter sur votre papier. Si le papier est trop petit, vous pouvez écrire derrière. Si vous n'avez pas encore... pas assez de place, Michel a encore des papiers. Je plaisante. Écrivez. C'est entre Dieu et vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais Dieu regardera l'acte que vous avez posé ce matin. Amen. On a peut-être des blocages dans nos finances, dans notre travail. On a peut-être des blocages dans notre vie de couple, dans notre santé. On a peut-être des soucis familiaux. On a peut-être des problèmes de voisinage. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé. Vous êtes devant un mur avec le pardon. Vous voudriez bien pardonner, mais vous n'y arrivez pas. Jésus va libérer toutes ces choses ce matin. Il va vous libérer. Faites-lui confiance. Écrivez, faites-lui confiance. Dieu regarde vos cœurs ce matin. Amen. Seigneur, je te fais confiance. Maintenant, je te laisse agir dans toute cette situation. Je remets tout entre tes mains. Je me libère. Pour que tu puisses vraiment agir là, maintenant. Je te laisse la barre de mon bateau. Je reçois ta confiance. Et je reprends le chemin pour poser avec ton discernement des actes de confiance dans ma vie. Et je sais, Seigneur, que tu pourvoiras à tous mes besoins. Parce que tu es avec moi tous les jours, jusque la fin de ma vie. Dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit qui habite nos cœurs. Amen. Amen.